بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui le samedi le 23 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 11 avril 2026. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour poursuivre ensemble notre lecture du livre de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, qu'Allah le préserve, ainsi que tous nos savants, les savants de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Son livre intitulé « Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat » et effectivement c'est un livre qui est particulier dans son sujet, car c'est un livre qui est dédié entièrement aux femmes croyantes. C'est pour ça qu'il a regroupé dans ce livre des règles que vous trouvez dans les grands livres de l'fiqh, car la règle de base dans les règles de jurisprudence, c'est qu'elles sont communes aux hommes comme aux femmes. An-nisa'u shaqa'iqur rijal. La femme, elle est comme l'homme, aux yeux de la législation. Ou là, par rapport aux règles de jurisprudence. Sauf les questions qui sont spécifiques aux hommes ou spécifiques aux femmes. La règle de base, c'est que toutes les règles sont de la même manière pour les hommes que pour les femmes. Taïb. On s'était arrêté, on a parlé dans notre dernier, lors de notre dernière rencontre, on a parlé des signes avec lesquels la femme reconnaît la fin de sa période menstruelle. Mais avant de poursuivre, j'aimerais, comme d'habitude, on essaie de donner quelques petits conseils pratiques pour améliorer notre vie de couple et la relation entre le mari et son épouse. Parmi les choses qui facilitent la bonne relation entre les époux, c'est que chacun doit être à l'écoute de l'autre, et surtout le mari. Il doit être à l'écoute, et il doit être à l'écoute de son épouse. Il lui accorde un temps où il écoute ce qu'elle a à dire. Et j'ai entendu de certains spécialistes dans les problèmes de couple que si jamais le mari accorde une demi-heure par jour seulement pour écouter son épouse, il choisit le moment qui lui convient le plus. Car l'époux, qui est souvent à l'extérieur, qui travaille, qui rencontre différentes catégories de gens, qui doit faire face à beaucoup de problèmes à l'extérieur, il n'est pas préservé comme la femme qui reste dans son foyer. C'est pour ça qu'il faut qu'elle comprenne qu'il ne peut pas être à l'écoute à n'importe quel moment. La femme intelligente, elle sait quand est-ce que son mari peut être à son écoute. Elle sait quand est-ce qu'elle peut demander à son mari des choses. La femme intelligente arrive toujours à avoir de son mari ce qu'elle veut. Dans le cadre, bien évidemment, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Mais la femme qui manque de tact, souvent, et elle peut être poussée par Shaitan, elle va formuler ses demandes au moment où il ne faut pas. Le mari rentre fatigué du travail, il a passé une journée de travail, il est fatigué, il est épuisé. Et dès qu'il rentre, elle lui dit « il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça ». Et ça peut être le début d'une dispute. C'est pour ça, la femme intelligente sait quand est-ce qu'elle peut demander à son mari les choses dont elle a besoin, pour sa personne ou également pour ses enfants et son foyer. Mais sinon, ce qui est important, c'est qu'on soit à l'écoute l'un de l'autre et une écoute avec de l'encouragement, une écoute avec de la motivation et aussi une écoute avec des compliments. Yani, quand la femme souhaite entreprendre, l'épouse souhaite entreprendre une chose, yani c'est bien que son mari l'encourage du moment que c'est un bien pour elle, que ce soit dans le dunya ou dans la religion. Il l'encourage et il continue à la soutenir et la motiver pendant. Et puis, il la complimente après. Également, les cadeaux, s'offrir des cadeaux, est une chose très importante. C'est quelque chose de très très important. Yani, qui renforce nos relations. Et la relation entre époux et épouse, yani le cadeau a un rôle capital. C'est pour ça que le Nabi sallam nous a orienté vers cela. Il a dit tahadaw tahabbu. Offrez-vous des cadeaux, aimez-vous. C'est une cause d'augmenter l'amour entre nous. Que ce soit des cadeaux d'une manière générale ou des cadeaux suite à des exploits, des choses que l'épouse a réussi. Elle a fini de mémoriser une sourate, elle a appris un chapitre de l'fiqh, ou elle a appris à faire de la couture, et ainsi de suite. Également, il est très important d'accorder du temps. L'épouse, elle doit accorder du temps pour son mari. Et le mari également doit accorder du temps pour son épouse. Des moments où il s'assoit avec elle, où ils vont discuter, ils vont parler. Donc ça rejoint un petit peu le fait d'être à l'écoute. Lakin, c'est aussi, ça comporte en plus le fait de consacrer du temps. Et que le partenaire réalise que son partenaire lui consacre du temps rien que pour lui. Il vient, il s'assoit, et ainsi de suite. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le soutien qu'ils doivent s'apporter les uns pour les autres. Le soutien qu'ils doivent s'apporter les uns pour les autres. Ça aussi, c'est très important. Et tous ces petits gestes, si on arrive à les adopter au quotidien, ça ne fera que renforcer notre relation. Il faut comprendre que pour qu'un homme arrive à cohabiter, à vivre et à partager sa vie avec une femme, c'est pas une chose facile, étant donné qu'ils ne se connaissent pas ou peut-être qu'ils ont deux tempéraments différents, deux caractères différents, avec encore peut-être deux cultures différentes, deux personnalités différentes, et ainsi, et en plus des choses qui sont spécifiques aux hommes et qui sont différentes des choses qui sont spécifiques à la femme, qui sont dépendantes de la nature de chacun. Donc avec tout ça, il faut des choses pour faciliter yani, cette union et cette stabilité dans le couple et cette sérénité dans notre vie de couple. Et malheureusement, ce qui est constaté, peut-être que je vais terminer avec ça, malheureusement, ce qui est constaté, c'est que dans nos relations, que ce soit avec nos épouses, mais également avec nos enfants, il est constaté que ce sont le plus souvent des relations superficielles. Des relations superficielles avec nos épouses et avec nos enfants. Car ce sont des relations qui sont basées sur des questions-réponses et des informations. Est-ce que t'as fait ça, t'as pas fait ça, donne-moi ça, je te fais ça, et ainsi de suite. Et ça reste des relations superficielles. Amma, les relations profondes, c'est des relations où on va montrer un intérêt supplémentaire pour, on va partager des centres d'intérêt. Et on va demander l'avis. On va demander l'avis de son partenaire. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Dans les différents domaines, il y en a demandé l'avis de son partenaire et partager avec lui certains centres d'intérêt et lui parler également des choses qu'il aime. Et en plus d'exprimer les sentiments. Donc c'est ça, ce sont celles-là les relations profondes. Amma, si on est toujours dans « Est-ce que tu as préparé le rda ?»« Oui, non. »« Est-ce que tu as fait ça ?» Yani ça, c'est... Yani, ça reste du domaine de la relation superficielle. Faut qu'on creuse un petit peu plus et qu'on arrive à d'autres domaines. Yani, comme le fait de demander l'avis et de demander conseil. Pourquoi la femme, elle ne revient pas vers son mari, elle lui demande conseil. Et également le mari. Et Nabi, vous savez qu'il est le meilleur des hommes. Et s'il y a un homme qui peut se passer de l'istishara, de la demande de conseil, de la consultation, c'est bien évidemment Nabi, mais malgré cela, ça lui arrivait de demander conseil à ses épouses, et aussi de chercher à avoir son avis, et de lui parler de ses problèmes, de ses soucis, de ses objectifs dans la vie, et de partager entre époux certains centres d'intérêt, d'avoir un petit peu les mêmes préoccupations, que ce soit des préoccupations religieuses ou mondaines. Ça doit être un projet de famille, par exemple, de préparer le hijra, un projet de famille d'apprendre la religion. Ça, c'est des centres d'intérêt religieux très importants. Ils doivent être partagés entre l'époux et l'épouse, également dans des affaires mondaines. En plus d'exprimer les sentiments et de le faire yani, au maximum et de s'éduquer dans cet état d'esprit et surtout d'éduquer nos enfants. Yani, il faut savoir que pas tout ce que je dis ici, je le fais, bien évidemment. On est très très loin de ça. Malheureusement, on peut être handicapé par une certaine culture qu'on a reçue où là, on n'a pas grandi dans ces choses-là. C'est pour ça qu'elles ne sont pas faciles. Lakin, on est tenu de faire des efforts pour arriver à cela, car ça facilite énormément nos relations de couple et ça évite énormément de problèmes. Wallahu alam. Donc, Cheikh Hafidhahullah wa rahimanallah wa iyyah a dit « Tanbihun muhim ». Donc, un avertissement important. A dit « Iza tahuratil mar'atu al-ha'idu » ou « Iza tahuratil ha'idu » ou « Innufasa'u qabla ghurubi shamsi lazimaha an tusalli al-zuhra wal-asra min hadha al-yawm » Donc ça, c'est un point d'une très très grande importance pour les femmes. Il a dit la femme, quand elle devient pure de ses menstrues ou de ses lochis, yani après la fin des menstrues et des lochis, si ces deux sangs s'arrêtent avant le coucher du soleil, si ces deux sangs s'arrêtent avant le coucher du soleil. Alors dans ce cas-là, Cheikh a dit « Lazimaha an tusalli al-zuhra wal-asra min hadha al-yawm » Il a dit « Alors il est obligatoire pour elle et il lui incombe de faire salat al-zuhr et al-asr de ce jour-là. » Donc si le sang s'est arrêté avant le coucher du soleil, elle doit faire salat al-dhuhr et salat al-asr. وَمَنْ تَهُرَتْ مِنْهُمَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ مِنْ هَذِهِ اللَّيْلَ Et la femme, dans ses deux sangs, les menstrues et les lochis, s'arrête avant le lever de l'aube, avant طُلُوعِ الْفَجْرِ elle doit obligatoirement faire salat al-maghrib ou al-isha de cette nuit. Donc si ça s'arrête avant le fajr, elle doit faire al-maghrib et al-isha. Si ça s'arrête avant le coucher du soleil, elle doit faire dhuhr et al-asr. Pourquoi? Pourquoi elle ne fait pas uniquement la salat durant laquelle ou la, durant le temps de laquelle elle est devenue pure? Si ces deux sens se sont arrêtés pendant le temps de salat al-asr, pourquoi on ne dit pas qu'elle fait seulement salat al-asr? Et si ça s'est arrêté pendant salat al-maghrib, pendant le laps de temps de salat al-maghrib, qui est du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de l'aube rouge dans le ciel, pourquoi on ne dit pas qu'elle fait seulement salat al-maghrib? Et si c'est après l'entrée de l'heure de salat al-isha, pourquoi on ne dit pas qu'elle fait seulement salat al-isha? Cheikh va répondre à cette question. Il a dit لِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَقْتُ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى فِي حَالِ الْعُذْرِ. Pourquoi? Il a dit car le temps de la première salat est également un temps pour la deuxième salat dans la situation d'une excuse valable. Quelqu'un qui a une excuse valable, il peut retarder salat al-dhuhr et la faire regrouper avec salat al-asr. Donc le temps de salat al-asr devient un temps pour salat al-dhuhr. Et de même, quelqu'un qui est dans une situation qui lui autorise à regrouper salat al-maghrib al-isha, effectivement, il peut retarder salat al-maghrib jusqu'à l'heure de l'isha. Il les fait ensemble, regroupés. Il les fait ensemble et obligatoirement regroupés. Il ne peut pas faire une et laisser passer une demi-heure et revenir faire l'autre. Il doit les regrouper. Il les a retardés seulement pour les regrouper. Voyez ? Donc ça, c'est la preuve sur laquelle il s'est basé, rahimahullah ta'ala. Et ensuite, il a rapporté la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, qui est de cet avis. Il a dit ولهذا كان جمهور العلماء. Il a dit ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد. C'est pour ça la majorité des hommes de science comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, il disait إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِدُ فِي آخِرِ النَّهَارِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. Ils disent quand la femme indisposée, quand elle devient pure avec la fin de ses menstrues, si elle devient pure à la fin de la journée, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, elle doit faire dhuhr et l'asr ensemble. Et si elle devient pure à la fin de la nuit, c'est-à-dire avant le lever de l'aube, elle doit faire la salat de l'Maghrib et de l'Isha également ensemble. Et ceci a été rapporté du compagnon Abdurrahman ibn Auf ou Abu Huraira ou Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous, car le temps de ces deux salawat est commun dans le cadre de l'excuse valable, comme le voyage par exemple, comme la maladie, et ainsi de suite. Et il poursuit en disant, Cheikh l'Islam Taymiyyah, quand la femme elle devient pure à la fin de la journée, alors le temps de salat al-dhuhr continue pour elle. Et c'est pour ça qu'elle doit la faire avec l'asr. Elle fait d'abord dhuhr et ensuite elle fait l'asr. Et si elle devient pure à la fin de la nuit, alors c'est encore le temps de salat al-maghrib, dans le cas de l'excuse valable. Et c'est pour ça qu'elle doit faire d'abord salat al-maghrib, et ensuite elle fait salat al-isha. Fin de citation. Cette parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah a été rapportée dans Majmou' al-Fatawa. Tayyib. Donc ça c'est un avis. Il y a un deuxième avis, qui est le madhab de l'Hanafiyya et de l'Zahiriyya, et de plusieurs parmi les salafs. Et cet avis a été choisi par Cheikh Ibn Uthaymin, rahmallah. C'est également l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que la femme, quand elle devient pure, il n'est obligatoire pour elle de faire que la salat durant le temps de laquelle elle est devenue pure. C'est-à-dire durant laquelle ses menstrues ou ses lochies se sont arrêtées. Donc ça, c'est un autre avis. Il n'y a pas de doute que l'avis que Cheikh Al-Fawzan Hafidhallah a cité, c'est l'avis de la précaution. Et l'autre avis de Cheikh Al-Thaymin, c'est l'avis le plus proche de Dalil. Car il n'y a pas en réalité quelque chose de clair qui impose à la femme de faire les deux salawats. Et le fait de dire que c'est un temps commun, ça c'est dans le cadre de l'excuse valable. C'est pour le voyageur, le malade, amma la femme indisposée, c'est avec la permission d'Allah et l'ordre d'Allah qu'elle n'a pas fait la salat. Il n'y a pas un ordre qui dit, et un explicite dans le Coran ou dans la Sunna, qui dit qu'elle doit faire les deux salats. Lakin, c'est un avis de précaution. Et comme vous voyez, c'est l'avis de beaucoup d'hommes de science. Donc si la femme, elle agit de cette manière, à chaque fois qu'elle devient pure, elle fait les deux salawats. Si elle devient pure après le fajr, et avant le dhuhr, bien évidemment, elle ne fait que le fajr. Si elle devient pure après le dhuhr, elle ne fait que le dhuhr. Mais la question, si elle devient pure après l'asr et avant le maghrib. À ce moment-là, elle fait les deux, le dhuhr et l'asr. Et si elle devient pure après le maghrib, elle ne fait que le maghrib. Et si elle devient pure après l'isha, alors à ce moment-là, effectivement, elle fait le maghrib ou l'isha, Allahu alam. Donc ça, c'est un avis de précaution. طيب. Ensuite, il a dit: وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ وَقْتُ صَلَاةٍ ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ نَفُسَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّي فَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي أَدْرَكَتْ أَوَّلَ وَقْتِهَا ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ نَفُسَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَهَا. طيب. Ça, c'est une autre question qui concerne toujours la femme. Yani, par rapport à ses menstrues ou ses lochies. Donc la femme, qui, yani, pour laquelle l'heure d'une salat est déjà entrée. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons pour cette femme, yani, c'était après l'adhan de dhuhr, quelques minutes ou après l'adhan de dhuhr, elle a eu ses menstrues, à ce moment-là, après l'adhan, c'est-à-dire après l'entrée de l'heure de la salat. Elle a eu ses menstrues, ou là, ses lochies, avant de faire la salat. Bien évidemment, la femme, ce n'est pas une obligation pour elle de faire la salat dès qu'il y a eu l'adhan, pour que quelqu'un ne nous dise pas, oui, mais elle a retardé. Non, elle a retardé avec une permission. Ce n'est pas obligatoire pour la femme, dès qu'elle entend l'adhan, qu'elle se hâte à faire la salat obligatoire, malgré que c'est meilleur. Et même ça fait partie des meilleures actions en islam. Quand le Nabi a été interrogé, quels sont les actes les plus aimés par Allah, il a dit as-salatu ala waqtiha, c'est-à-dire la salat en début de son temps. Ça, c'est parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et malheureusement, il y a beaucoup de négligence chez nos sœurs à ce sujet. Et même, ça peut arriver à des situations qui sont blâmables, où elle va retarder vraiment jusqu'à la fin du temps de cette salat. Elle retarde dhuhr jusqu'à 5 ou 10 minutes avant l'adhan de l'asr. Si c'est exceptionnel, un jour où elle est fatiguée, ça peut passer. Là, que ça devient une habitude, non. Il faut au contraire que son habitude soit de faire la salat en début de son temps. Donc, dans ce cas qu'on vient de mentionner, est-ce que la femme, si, يعني, elle a eu ses menstrues après l'entrée de l'heure de la salat. Et elle ne l'a toujours pas fait. Jusqu'à ce qu'elle a eu ses menstrues. Quand elle devient pure, à la fin de son cycle menstruel, est-ce qu'on lui dit de rattraper cette salat, étant donné qu'il y a eu l'adhan et qu'elle était pure et qu'elle pouvait la faire? Ou on lui dit non, t'es excusé. Il y a deux avis à ce sujet. Et Cheikh, il dit l'avis le plus juste, l'avis prépondérant, c'est qu'il n'est pas obligatoire pour elle de rattraper cette salat, malgré qu'elle était pure à l'entrée de la salat et qu'elle est devenue indisposée que par la suite. Et il a rapporté à ce sujet la parole de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans laquelle il dit « والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرت تأخيرا جائزا » Donc Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dit ce qui semble le plus apparent selon les arguments, c'est l'avis de l'école de l'Hanafiyya et de l'imam Malik, et que la femme n'est pas dans l'obligation de rattraper cette salat, c'est-à-dire la salat qu'elle n'a pas accomplie, malgré qu'elle était pure avec l'entrée de l'heure de la salat, et qu'elle est devenue indisposée que plus tard. Donc ce qui est le plus proche de la vérité, c'est que la femme, elle ne doit pas rattraper cette salat. Il poursuit en disant, car le rattrapage nécessite un ordre, yani un ordre dans les textes, un verset ou un hadith qui ordonne à la femme de rattraper cette salat. Et nous n'avons pas d'ordre de rattrapage. Et en plus, elle a retardé cette salat, un retardement autorisé. Comme on a vu, c'est pas obligatoire pour elle de faire la salat dès l'entrée de son heure. C'est autorisé de la retarder une demi-heure, une heure. Ce qui compte, c'est de la faire avant l'entrée de la salat suivante. Avant l'entrée de la salat suivante. Donc elle a retardé avec, yani, d'une manière autorisée et permise. Et elle n'est pas négligente. Contrairement à celui qui dort ou celui qui a oublié l'accomplissement de la salat. Celui-là, malgré qu'il n'est pas négligent, mais ce qu'il va faire, car les deux vont devoir rattraper obligatoirement la salat pendant laquelle ils dormaient, ou la salat qu'ils ont oublié d'accomplir en pensant l'avoir fait. Les deux vont la rattraper obligatoirement. Pourquoi ils vont la rattraper obligatoirement malgré qu'ils ne sont pas négligents? Car nous avons un texte qui leur ordonne de la rattraper dans ce cas. Et nous n'avons pas de texte qui ordonne à la femme de la rattraper dans le cas qui a été cité précédemment. Et en plus, pour celui qui dort et celui qui a oublié, en réalité, le temps de cette salat, c'est quelqu'un qui a dormi un peu avant salat al-dhuhr, en pensant se réveiller pour la faire. Amma, s'il dort avec l'intention de ne pas se réveiller pour la faire, si c'est un homme et qu'il a loupé le groupe de cette manière et qu'il est concerné par cette obligation, il est dans le péché. Lakin, quelqu'un qui s'est endormi avant salat al-dhuhr, en pensant se lever au bon moment pour l'accomplir, et il ne s'est réveillé qu'après l'asr. Donc il s'est endormi sur une salat obligatoire. Et donc celui-là, il n'est pas négligent, dans le sens où il avait l'intention de se réveiller pour l'accomplir dans son temps. Et aussi, il a fait les causes pour se réveiller. Là, qu'une des fois, ça peut arriver. Alors dans ce cas-là, il est excusé. Il n'est pas considéré comme négligent, comme quelqu'un qui a l'habitude de faire toujours salat dhuhr avant de rentrer chez lui. Et un jour, il a eu des bouchons ou là, des choses qui l'ont empêché d'arriver à temps à la mosquée pour la faire. Et il est rentré chez lui pour la faire, chez lui. Mais comme il a toujours l'habitude de rentrer chez lui après avoir accompli la salat, ça peut arriver qu'il oublie de l'accomplir. Et il a mangé, il est parti dormir. Il s'est réveillé pour l'asr. Avant de commencer salat l'asr, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait dhuhr. Donc celui-là, il n'est pas négligent non plus. Il n'est pas dans le péché. Mais en plus, dans ces deux cas, le temps de salat dhuhr, c'est quand il s'est réveillé. Et le deuxième, c'est quand il s'est rappelé. Donc, en réalité, ils l'ont fait dans son temps pour eux. C'est un temps spécifique pour celui qui dort et celui qui a oublié. Comment on a su ces choses-là? On les a su avec le hadith de Nabi al-Sazam qui est clair à ce sujet. Taïb. Ensuite, ça c'est le premier point avec lequel Cheikh Hafizahullah a terminé ici. Donc les règles qui concernent Al-Ha'id, les règles qui concernent la femme ayant des menstrues. Maintenant on va passer à une deuxième catégorie de règles qui est d'une grande importance. Et c'est un phénomène par lequel pas mal de femmes sont touchées, ce sont les métrorragies. L'istihada, dame ou l'istihada. Et on va voir la différence entre les deux sons. Juste un instant, barakallahu fikoum. Taïb. Inch'Allah. Taïb, des règles qui concernent l'istihada. L'istihada, c'est ce qu'on appelle les métrorragies. Taïb, c'est quoi l'istihada? Cheikh, il dit Al-istihadatu sayalanu dami fi ghayri waqtihi. Sayalanu dami fi ghayri waqtihi. C'est quoi l'istihada? C'est quand le sang sort, mais pas pendant le temps habituel pendant lequel il sort. Quand le temps il sort, mais en dehors de la période habituelle. Ala sabilin nazif. Yani, il sort sous forme d'hémorragie. Il sort sous forme d'hémorragie. Min irqin yusamma al-'adil. Il sort d'une veine qu'on appelle al-'adil. Al-'adil. Wal-mustahada, aussi il y a un autre point qui distingue le sang des métrorragies du sang des menstrues, c'est que le sang des métrorragies sort min adna ar-rahim, duna qa'rihi. On a vu que le sang des menstrues sort du fond de l'utérus, contrairement au sang des métrorragies qui sort, yani qui ne sort pas du fond de l'utérus. Et en plus, il ne sort pas pendant le temps habituel des menstrues. Et il y a d'autres éléments pour le distinguer, comme la description du sang en lui-même. La description du sang. Le sang des menstrues est un sang léger, rouge, vif. Il est léger, il n'est pas épais comme le sang des menstrues. Et il n'est pas il n'a pas une mauvaise odeur comme le sang des menstrues. Et aussi, c'est un sang, quand il sort, yani rapidement, il coagule. Il devient solide. Il devient solide rapidement. Exactement comme les sangs que nous avons dans les veines. Le sang que nous avons dans les veines, c'est un sang léger, de couleur rouge vive, et puis qui n'a pas une mauvaise odeur. Et si tu laisses du sang sur un endroit, tu vas voir qu'il devient solide très rapidement. Contrairement au sang des menstrues, qui est plutôt yani marron foncé, et qui est épais, et avec une mauvaise odeur, et qui ne coagule pas aussi rapidement. Il ne devient pas solide aussi rapidement que le sang des métrorragies. Et le sang des menstruations sort du fond de l'utérus. Amma, le sang des métrorragies, il sort d'une veine. Et dans le hadith, un shaitan qui peut provoquer ça. Est-ce que c'est tout le temps un shaitan qui le provoque ou ça peut arriver tout seul? Allahu alam. Mais en tout cas, shaitan, c'est rapporté dans le hadith qu'il peut provoquer le sang des métrorragies afin de mettre la femme dans la difficulté. Et puis, surtout si elle ne connaît pas les règles et elle ne sait pas distinguer les deux sangs, elle rentre dans des doutes. Est-ce que je peux faire la salade? Est-ce que je jeûne ou est-ce que je ne jeûne pas? Donc, on va voir les règles qui distinguent les deux sangs. Après avoir compris, bi'idnillahi ta'ala, ce qui les distingue, que ce soit au niveau de la description, de la texture, de la couleur, de l'odeur, et ainsi de suite. طيب, ensuite, Cheikh a dit, وَالْمُسْتَحَادَةُ أَمْرُهَا مُشْكِلٌ وَالْمُسْتَحَادَةُ أَمْرُهَا مُشْكِلٌ لاشتباه دم الحيض بدم النفاس أو عفوا لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة. Donc en réalité, la situation de la femme ayant des métrorragies, c'est une situation problématique dans laquelle il y a une certaine confusion. Pourquoi? Parce que le sang des menstrues ressemble au sang des métrorragies. Surtout pour la femme qui n'arrive pas à faire la distinction, qui n'a pas ce qu'on appelle tamiz. Qui n'a pas tamiz. Et c'est le point commun qu'ils ont, c'est les deux, ce sont des sangs, et Annie, qui coulent du même endroit en apparence. Malgré qu'on a vu que le sang des métrorragies provient d'une veine. Contrairement au sang des menstrues qui provient du fond de l'utérus. Après, Cheikh a dit, فَإِذَا كَانَ الدَّمُ يَنْزِلُ مِنْهَا بِاسْتِمْرَارٍ أَوْ غَالِبَ الْوَقْتِ فَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ مِنْهُ حَيْضًا وَمَا الَّذِي تَعْتَبِرُهُ اسْتِحَاضَةً لَا تَتْرُكُ مِنْ أَجْلِهِ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةِ فَإِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يُعْتَبَرُ لَهَا أَحْكَامُ الطَّاهِرَاتِ. Donc aussi, parmi les choses qui mettent la femme dans la confusion à cause de ce sang de métrorragie, c'est que quand il y a cet écoulement, quand il y a cet écoulement de sang et qui est permanent, qui sort d'une manière continuelle, ou qui sort souvent, quand elle a des écoulements, souvent, alors, qu'est-ce qu'elle va considérer de ce sang comme des menstruations et qu'est-ce qu'elle va considérer comme des métrorragies? Car la femme ayant des métrorragies, c'est une femme pure. Elle a les règles des femmes pures. Elle doit faire la salat, elle doit jeûner quand c'est un jeûne obligatoire. Elle peut avoir des relations intimes avec son époux et ainsi de suite. à là les règles de la femme pure, contrairement à la femme ayant ses menstrues ou ses logis. Et par conséquent, il dit Wabina an ala dhalik fa inna al-mustahada laha thalath halat. Et par conséquent, la femme en métrorragie se trouve à trois cas de figure. Et ça, c'est une manière de résumer tous les cas selon l'avis qui semble être le plus juste. Wallahu alam. Cheikh, il va résumer d'une manière parfaite cette question qui est pourtant une question complexe. Il a dit, le premier cas, ces points, peut-être que nous allons les voir aujourd'hui, et il n'y a pas de mal à revenir dessus la semaine prochaine, inshallah ta'ala, pour leur importance. Donc le premier cas, an takuna laha 'adatun ma'rufatun ladayha qabla isabatiha bil istihada. Donc le premier cas de figure, ce sont les femmes ayant un cycle uniforme, un cycle régulier, c'est-à-dire leur menstrue arrive toujours chaque mois durant la même période et vont durer le même nombre de jours. Par exemple, la femme qui a toujours ses menstrues au début du mois et ça dure 7 jours. Ça, c'est une femme ayant ce qu'on appelle al-mu'tada, ayant un cycle régulier, ayant une habitude constante. C'est-à-dire, ça arrive toujours à la même période et ça dure le même nombre de jours. Et ça, c'est avant qu'elle soit touchée par la métrorragie. Elle était ainsi. Elle avait un cycle régulier. Par exemple, avant qu'elle soit touchée par ses métrorragies, ses menstrues duraient 5 jours ou 8 jours, par exemple, au début du mois ou là, au milieu du mois. Donc cette femme, elle connaît sa période de menstruation et elle connaît le nombre de jours que ça dure à chaque fois. Alors cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle est touchée par les métrorragies? Elle va tout simplement attendre l'arrivée de la période durant laquelle elle a habituellement les menstrues et elle va se considérer en état de menstrue. C'est-à-dire elle ne va pas jeûner, elle ne va pas faire salat et ainsi de suite parmi les règles qu'on a vues. Et après la fin de cette période, si on suppose que c'était 5 ou la 6 ou la 7 jours, après ces 5 ou 6 ou 7 jours, elle va se laver. Et elle devient pure. Et elle considère le reste du sang comme un sang de métrorragie et non plus comme un sang de menstrue. C'est-à-dire qu'elle est devenue pure et qu'elle doit faire la salat. Et également jeûner, et tout le reste, y compris les relations intimes. Donc, c'est une femme disposée, c'est une femme en état de pureté. Lakin, elle a des règles spécifiques à la femme ayant des métrorragies, yani par rapport à comment elle fait ses ablutions, et comment elle fait ses salawat. Et dalil sur ce point, c'est ce qui a été rapporté, c'est la parole du prophète alayhi salam à Ummu Habiba radiyallahu anha. C'est ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam, qu'est-ce qui a été dit du prophète alayhi salam à Ummu Habiba, qu'Allah l'agrée. Il lui a dit Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haydatuki thumma ightasili wa salli. Donc il lui a dit alayhi salam, il lui a dit reste le temps pendant lequel tu avais tes règles auparavant, c'est-à-dire avant l'arrivée des métrorragies. Il lui a dit ensuite, fais el-ghusl, irtasili, thumma irtasili, wa salli. et accomplit la salat. Et accomplit la salat. Ce hadith a été rapporté dans les deux authentiques. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, et les deux femmes, ce sont deux sahabiyats qui étaient connues à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir des métrorragies, souvent. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima radiyallahu anha bint Abi Hubaysh, il lui a dit « Innama thalika irqun wa laysa bil haydati fa idha aqbalat il haydatu fada'i salat » Donc il lui a dit, ce sang que tu as, c'est un sang qui sort d'une veine et non pas un sang de menstruation. Il lui a dit, dès que tu auras atteint ta période de menstruation habituelle, alors arrête d'accomplir la salat. Cesse d'accomplir la salat. Fada'is salat. Et ce que Cheikh a dit ici, c'est-à-dire, pour le résumer en un mot, de prendre en considération يعني, l'ada, l'habitude qu'avait la femme avant la métrorragie. Et remarquez que dans ce cas, même si la femme a une certaine distinction entre les deux sangs, elle ne va jamais mettre en pratique cette distinction. Étant donné qu'elle fait partie de la première catégorie qui a un cycle régulier, une période de menstrue habituelle et constante. Elle va mettre en pratique l'ada et non pas tamiz, la distinction. Quand bien même elle a un tamiz qui donne des résultats différents de l'ada. Elle va toujours suivre l'ada. Ça, c'est l'avis de l'Hanafiya et l'avis de l'Hanabila. Et qui a été choisi par Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah parmi les contemporains. Donc, ça c'est le premier cas. C'est le cas d'une femme ayant un cycle régulier avant l'arrivée des métrorragies. Que ce soit une femme avec une distinction ou pas. La distinction, ce qui est voulu par la distinction, c'est une distinction entre les natures des deux sangs. Par exemple, elle arrive à reconnaître le sang des menstrues de par ses caractéristiques, et le distinguer parfaitement du sang des métrorragies avec ses caractéristiques. Elle ne met pas en pratique sa distinction. Elle met en pratique seulement l'aide. Vous vous doutez qu'il y a un autre madhab qui dit qu'elle prend en considération d'abord at-tamiz, la distinction. Lakin, ça, wallahu alam, c'est le madhab le plus fort qui permet de mettre en pratique tous les arguments qui ont été rapportés à ce sujet qui est assez complexe. Le deuxième cas de figure, c'est la femme n'ayant pas une ada connue, n'ayant pas une habitude de menstruation connue, mais elle arrive à faire la distinction. Elle arrive à distinguer le sang des menstrues avec ses caractéristiques du sang des métrorragies avec ses caractéristiques. Mais c'est une femme qui n'a pas eu, avant les métrorragies, un cycle régulier. C'était toujours irrégulier chez elle. Des fois, ça pouvait arriver au début du mois et durer 5 jours. Des fois, ça peut arriver à la fin du mois et durer 7 jours. Donc, c'est cette femme-là. Lakin, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une femme qui a une distinction. Alors, dans ce cas, elle va mettre en pratique cette distinction. Et quand l'écoulement ou là ce qui coule d'elle, c'est un sang avec les caractéristiques des menstrues, elle se considère en état de menstrue. Et elle est ainsi impure et indisposée. Il lui interdit de faire tout ce que la femme indisposée n'a pas le droit de faire. Et quand les caractéristiques du sang changent et ça devient plutôt un sang rouge, vif, léger, qui n'a pas une mauvaise odeur et ainsi de suite, alors elle se considère comme pure et elle fait son roussel et le reste, ça sera un sang de métrorragie. Ça sera un sang de métrorragie. J'ai toujours pas cité comment doit faire la femme al-mustahada, les ablutions et la salat. Ça, on va le citer tout à la fin. Je ne l'ai pas oublié. Et ce deuxième cas de figure que je viens de citer, de la parole de Cheikh, c'est l'avis de Shafi'iyya et de l'Hanabila et de Ibn Taymiyyah et de Ibn Uthaymeen et Ibn Baz parmi les contemporains. Le troisième cas de figure, donc on a pris la femme ayant un cycle régulier, la femme n'ayant pas de cycle régulier, mais par contre ayant une distinction. Le troisième cas, c'est la femme qui n'a pas de cycle régulier ni de distinction. Elle n'arrive pas à distinguer. Le sang qui sort d'elle, yani, il est mélangé entre les deux. Elle n'arrive jamais à distinguer clairement les caractéristiques du sang des menstrues ni les caractéristiques du sang des métrorragies. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette troisième femme ? Alors, cette troisième femme, ce qui est obligatoire pour elle, c'est de se considérer en état de menstruation durant une période de 6 ou de 7 jours de chaque mois. Durant une période de 6 ou de 7 jours durant chaque mois. Car ça, c'est la durée des menstrues chez la plupart des femmes. C'est la durée des menstrues chez la plupart des femmes. Et en dehors de ces 6 ou 7 jours, yani elle peut revenir aux femmes de sa famille. Le nombre de jours du cycle de sa mère, le nombre de jours du cycle de ses sœurs, de ses tantes, et ainsi de suite. Les femmes de sa famille. Elle regarde leur cycle, combien il dure en général, et elle va se considérer en état de menstruation pendant un nombre de jours égal à ces jours-là, 6 ou la 7. Car comme le Nabi Aïssa-Salam a enseigné à la sahabiya Hamna bint Jahsh, et Hamna radiallahu anha, c'est la troisième femme qu'on vient de voir, qui fait partie des femmes qui avaient des métrorragies d'une manière récurrente à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit « إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. » Donc le Nabi alayhi salam lui a dit, ce qui coule de toi, en réalité, c'est un coup qui est donné par Shaitan. Yani Shaitan, il frappe à cet endroit pour éclater cette veine et faire sortir du sang de la femme. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit, alors, observe 6 jours ou 7 jours de menstruation, de règles. Puis, lave-toi. ثم اغتسلي. فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة. Et lorsque tu es pur, alors accomplis la salat pendant 24 ou 23 jours. Yani selon si elle se considère en état de menstruation pendant 6 jours ou 7 jours. Si elle se considère comme en période pendant 6 jours, elle va faire 24 jours de salat. Et sinon, ce sera 23 jours. Donc dans chaque mois, elle va rester en état de menstruation pendant 6 ou 7 jours, selon l'habitude de la plupart des femmes de sa famille, ou là de son pays, ou là les femmes d'une manière générale. Et ensuite, Nabi alayhi salam lui a dit après, fais le jeûne et accomplis la salat jeûne et accomplis la salat, et ceci te suffit. وَكَذَلِكَ فَفْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءِ. Et il lui a dit, c'est de cette façon que tu dois agir conformément à la période de menstruation habituelle chez la majorité des femmes. Ce troisième cas que je viens de citer, c'est l'avis de l'Hanabila et l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah et qui a été choisi par Cheikh Ibn Athaymin ou Cheikh Ibn Baz. En résumé, Cheikh il dit, وَالْحَاصِلُ مِمَّا سَبَقْ. En résumé, Cheikh il va résumer tout ce qu'on a vu, les trois cas. Il a dit, وَالْحَاصِلُ مِمَّا سَبَقْ. أَنَّ الْمُعْتَادَةَ تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا. La femme ayant un cycle régulier, elle revient à son habitude et non pas à sa distinction. Et la femme ayant une distinction et n'ayant pas de cycle régulier, elle revient à sa distinction. Et la femme n'ayant ni cycle régulier ni distinction, elle se considère en état d'impureté pendant un nombre de jours égal à l'habitude de la majorité des femmes, 6 ou 7 jours. Et en ce résumé, un moyen de regrouper tout ce qui a été rapporté du prophète alayhi salam authentiquement au sujet de la métrorragie. Taïb. On va terminer avec une parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah qui appuie ce choix de Cheikh al-Fawzan. Il a dit وَالْعَلَامَاتُ الَّتِي قِيلَ بِهَا سِتْتُنْ. Donc l'ensemble des signes qui ont été mentionnés par les hommes de science, l'ensemble des indicateurs de l'arrivée de la période de menstrues chez la femme sont au nombre de 6. Bien évidemment, il ne va pas retenir les 6. Il va retenir que les 3 qu'on vient de mentionner. Car c'est ceux-là qui sont mentionnés dans les textes authentiques. Et sur les autres, il n'y a pas de preuve, comme a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah. Donc le premier signe, c'est l'habitude. Al-'ada. فَإِنَّ الْعَادَةَ أَقْوَى الْعَلَامَاتِ. L'ada, l'habitude, c'est le signe et l'indicateur le plus fort. Car la règle de base, c'est que tout sang qui sort de l'utérus de la femme est un sang de menstrue, et non pas autre chose. Donc ça, c'est la règle de base. C'est pour ça que nous l'avons pris en compte en premier. Et vous savez qu'on reste toujours dans la règle de base jusqu'à preuve du contraire. Et le deuxième signe, c'est la distinction. Car on peut arriver à distinguer le sang des menstrues du sang des métrorragies. Et le troisième signe, c'est l'habitude de la majorité des femmes. Et car on va donner un jugement à un individu qui est valable pour la majorité, yani des gens. C'est une forme de qiyas. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé en dernier. Car c'est un qiyas. Contrairement au premier signe, qui est un signe direct. Le deuxième également. Et le troisième, c'est un qiyas. Là, qu'il en plus, ce qiyas, il est mentionné par le Nabi ﷺ dans le hadith authentique. Comme il a dit à Hamna bint Jahsh, radiallahu anha. Fin de la parole de Cheikh l'Islam Taymi. Ensuite, Cheikh al-Fawzan a dit فَهَذِهِ الْعَلَامَاتُ الثَّلَاثُ تَدُلُّ عَلَيْهَا السُنَّةُ وَالْاِعْتِبَارُ. Donc ces 3 signes, c'est ce qui est que ce soit l'habitude et les règles, les menstrues régulières, ou le deuxième qui est la distinction et la différenciation entre les deux, entre la nature des deux sangs, et également le troisième qui est la prise en considération de la période de menstruation la plus fréquente chez les femmes. Yani, sur ces trois éléments, il y a les arguments de la sunna et du bon sens et du bon raisonnement. Et ensuite, Cheikh l'Islam a cité trois autres signes et il a dit à la fin, et l'avis prépondérant, l'avis le plus juste, c'est de prendre en considération uniquement les signes qui ont été rapportés dans les textes authentiques et de laisser de côté le reste des signes. Fin de la citation. Donc, nous allons, bi'idnillahi ta'ala, nous arrêtons ici et on poursuivra, inshallah, dans la semaine prochaine en citant ce que doit faire la femme ayant des métroragies et comment elle doit faire ses ablutions, qu'est-ce qui est obligatoire pour elle, qu'est-ce qui est recommandé avant d'entamer le sujet, le dernier point de ce chapitre qui concerne les النفاس ليلوشي بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته